Merci de cet exposé, parce que tout ce que vous avez, tout ce que vous nous avez communiqué n'existe pratiquement pas en langue française. Et dans l'histoire de la démocratie en Europe, je pense que le cas italien est à la fois très important et très méconnu. Le texte de cette conférence sera bien sûr mis en ligne sur le site du collège, mais ceux d'entre vous qui peuvent lire l'italien, ce que nous a communiqué Gianluca Frucci repose sur une masse considérable de travaux très, très savants. Et pour ceux qui souhaitent les lire, je vous conseille de regarder le site internet du CISCO, qui est la Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, sur lequel vous aurez toute la bibliographie des travaux savants sur lesquels était fondé cet exposé. Je crois que cet exposé amène à faire deux séries de réflexions. La première série de réflexions concerne l'histoire française. Je trouve que dans toute l'histoire constitutionnelle française, on n'a pas donné assez de place, effectivement, à ce qu'a représenté l'expérience constitutionnelle des républiques sœurs. Cette expérience constitutionnelle des républiques sœurs a été décisive pour déterminer la conduite de Bonaparte en l'an 8. Les présentations générales de la Constitution de l'an 8 mettent l'accent sur les discussions et les divergences de point de vue entre Sieyès et Bonaparte. Mais je pense que Bonaparte, lui, avait en quelque sorte expérimenté déjà ce qu'il voulait mettre en place. Et ce qui est très important dans les constitutions de ces républiques sœurs, c'est deux choses. La première chose, c'est que ces constitutions, elles mettent d'abord en scène le pouvoir exécutif. Je crois que cette mise en scène du pouvoir exécutif, ça va être le grand tournant de l'an 8 et de la période consulaire. Et ce grand tournant du pouvoir exécutif, eh bien, il est déjà exercé, il est déjà expérimenté dans les républiques sœurs. Et les gravures qui nous ont été montrées, qui faisaient suggérer la différence entre la fête de la Fédération de 1790 et les fêtes de la Fédération qu'il y a eu, notamment c'était une gravure de la République cisalpine ou cispadane, je ne me souviens pas que vous nous avez montré, mais ce qui est très important, c'est que dans toutes ces gravures, il y a la place du pouvoir exécutif. Ce qui caractérise toute l'iconographie de la fête de la Fédération, c'est que la fête de la Fédération, pour reprendre le mot de Michelet, a d'abord été conçue comme occupant un lieu vide. Donc la fête de la Fédération en France est une fête qui considère que la mise en scène de l'unité du peuple présuppose que cette unité ne soit pas en quelque sorte obérée par un lieu. Et donc elle a lieu non pas dans une des places de Paris, mais dans ce qui était à l'époque un grand terrain vague, le champ de Mars. Alors que là, on voit au contraire dans ces gravures à quel point il y a un espace qui est complètement reconstruit, et que cet espace est reconstruit avec la place centrale du pouvoir exécutif. Et c'est ce qui a fait dire, que vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est ce qui a fait dire à Madame de Staël, effectivement, que c'est dans ces circonstances que pour la première fois on entendait un nom propre, pourrait-on dire, dans le régime démocratique moderne. Et donc c'est la première expression constitutionnelle dans laquelle la politique moderne se lie à une personnalisation du pouvoir exécutif, alors que l'impersonnalité du pouvoir était quand même la grande idée révolutionnaire. Et donc, si on veut voir le basculement de la vision d'un pouvoir impersonnel, qui était l'idée révolutionnaire, à la personnalisation du pouvoir, qui va de pair avec la reconnaissance de la centralité du pouvoir exécutif, ben, je crois que c'est là qu'on a véritablement l'origine. Et une histoire du pouvoir exécutif doit commencer avec une histoire des républiques sœurs. Et ça, c'est une chose qui est trop peu connue, ne serait-ce que parce que toutes ces constitutions n'ont jamais été publiées en français. Il n'y a aucune littérature, pratiquement, sur les républiques sœurs, aucune littérature technique. Souvent, bien sûr, les biographes de Napoléon ils font référence de façon cursive, mais jamais de façon technique. Je trouve ensuite que le grand intérêt, qui est encore plus important, le grand intérêt de votre exposé est d'avoir mis l'accent sur, en quelque sorte, la dualité des histoires de la démocratie. Il y a d'un côté ce qu'on pourra appeler une histoire de la démocratie de corps et de l'autre côté une histoire de la démocratie de la citoyenneté individuelle. Et elles sont extrêmement différentes. Et le cas italien, justement, permet de comprendre cette différence de façon tout à fait remarquable. Pourquoi il permet de le comprendre ? Eh bien parce que, qu'il s'agisse des républiques sœurs ou qu'il s'agisse des plébiscites d'unification au moment du Risorgimento. Ce qui est frappant dans le cas italien, c'est qu'il n'y a pas eu la constitution, comme il y a eu au début de la Révolution française, d'une société d'individus. Donc la société italienne reste puissamment une société de corps, une société de corps religieux, une société de corps professionnels, une société de corps paroissiaux, une société de corps territoriaux. Et effectivement, on ne peut pas comprendre l'histoire des plébiscites italiens si on ne fait pas référence au fait que, qu'il s'agisse des républiques sœurs ou qu'il s'agisse de la période 48 et puis tout le mouvement du Risorgimento qui va suivre, c'est l'expression d'un vote qui est en fait un vote de corps. Et là, il y a un parallèle que l'on peut faire avec la Révolution française, c'est que le dernier vote de corps en France, c'est le vote pour l'élection des représentants aux États généraux. Et lors, on le sait, lors de ce vote pour des représentants aux États généraux, un vote qui souvent a été à 2 degrés, voire à 3 degrés dans certains cas, ou même plus, eh bien, ça a souvent été rappelé par les féministes de l'époque, et vous citiez Thérouanne de Méricourt qui l'avait signalé, il y a eu des femmes qui ont voté pour l'élection aux États généraux. Des femmes qui ont voté, non pas en tant qu'individus femmes, mais en tant qu'elles étaient membres de corps. Et notamment, toutes les femmes qui possédaient certains titres de propriété ont pu voter. Donc on voit bien là aussi comment la question du vote des femmes va se poser dans l'histoire de la démocratie. Est-ce que l'histoire du vote des femmes va être une histoire du corps des femmes ou une histoire de l'individu femme ? Et le cas italien montre ça, je trouve, de façon très, très intéressante. Quand on est passé en France à l'individu citoyen, la femme-corps disparaît d'un certain point de vue. Alors que dans les pays anglo-saxons, et c'est le cas notamment en Angleterre et aux États-Unis, eh bien, le suffrage féminin sera mis en place comme un suffrage de la femme en tant que corps social et non pas en tant qu'individu. Et d'ailleurs, dans toutes les arguments des suffragettes britanniques ou américaines, on met en avant justement la spécificité des femmes comme nécessité de leur représentation. Donc, ce n'est pas la femme individu, c'est la femme membre d'un corps spécifique et une participation et un apport particulier à la société. Mais plus encore que ce point-là, le cœur de votre exposé est double. Il est d'abord de montrer ce qui est extrêmement intéressant et important, l'écart de la conception du droit de vote entre les votes dans les plébiscites d'unification et le vote citoyen. Puisque ça va, dans certains cas, jusqu'à avoir, dans certains États, avant qu'ils soient réunifiés, des votes politiques où il n'y a que 7% des citoyens qui ont le droit de vote, alors que lors du vote de rattachement, lors des votes de souveraineté, pourrait-on dire, eh bien, il y aura même des domestiques, des mineurs et des femmes. Donc, ça, c'est un élément extrêmement intéressant à prendre en compte pour l'histoire de la démocratie. Pourquoi ? Parce que cela montre justement que le suffrage universel a progressé beaucoup plus rapidement en tant que suffrage de corps ou suffrage national qu'en tant que suffrage des individus. Et ça, c'est un point qui est apparu très clairement dans le débat français sous la Restauration. Parce que sous la Restauration en France, à la fin de la Révolution, on avait, au début de la Révolution, on avait un suffrage à 2 degrés. Bon. On aura ensuite un suffrage, à partir de la constitution de l'an 3, un suffrage qui sera un suffrage direct, et après on reviendra à un suffrage à différents degrés. Mais le grand argument des libéraux pour mettre en place le suffrage censitaire, c'est de dire la vraie citoyenneté, elle est active. La citoyenneté, elle n'est pas simplement, je dirais, une participation cérémonielle. Et donc les libéraux opposeront les millions de faux électeurs de la Révolution française, c'est-à-dire ceux qui étaient de premier degré, mais qui ne procédaient pas au choix des députés, qui étaient simplement dans les assemblées primaires, aux véritables électeurs de la monarchie de Juillet, qui, eux, étaient au début 120 000 à comparer avec les 40 000 électeurs de second degré de la Révolution française, et à la fin, ils étaient 300 000 à comparer toujours aux 40 000 électeurs de la Révolution française. Et donc là, on a un petit peu deux définitions de la citoyenneté. On a une citoyenneté qu'on pourrait appeler participative. Et à ce moment-là, la citoyenneté n'est pas liée à l'exercice d'un droit. La citoyenneté, elle est l'expression d'un statut. Donc on pourrait dire la citoyenneté nationale, c'est une citoyenneté statut. Et l'autre, ben, c'est une citoyenneté fonction ou une citoyenneté pouvoir. On a insisté au début de la Révolution française sur cet écart entre le vote droit et le vote fonction. Mais je crois qu'on n'a pas assez insisté sur la distinction à opérer entre le vote statut et le vote décision. Et là, toute la question des plébiscites du risorgimento, c'est qu'évidemment, ils se situent clairement comme un vote de statut. C'est en tant qu'appartenant, membre de la nation, que l'on s'exprime, et donc que l'on s'exprime encore, et non pas en tant que citoyen exerçant un choix. Et cette distinction, eh bien, elle va de pair entre un suffrage qui a une essence unanimiste et qui peut se lier à des formes d'acclamation et dans lesquelles, vous l'avez souligné, c'est extrêmement important, dans lesquels les rituels de proclamation du vote sont plus importants que les rituels du vote eux-mêmes. Et c'est exactement la même chose dans l'iconographie française du Second Empire. Dans toute l'iconographie du Second Empire sur les différents plébiscites, ce sont des images qui sembleraient calquées de celles que vous nous avez montrées, d'ailleurs elles sont à peu près de la même période, et ce sont toujours des images qui mettent en scène les résultats du scrutin, et non pas du tout la procédure de vote, en quelque sorte. La procédure est secondarisée par rapport, en quelque sorte, à l'expression du fait national. C'est ça qui est important. Et donc, l'histoire de la démocratie, elle a été non seulement tendue entre ces deux définitions de la citoyenneté, statut et d'un côté, et puis de l'autre côté, la citoyenneté-pouvoir, mais également entre ces deux modalités d'expression, l'expression unanimiste, si je puis dire, et puis une expression pluraliste. Mais quand vous avez insisté à juste titre sur le fait que dans les républiques sœurs, comme au moment du Risorgimento, cette expression unanimiste qui met l'accent sur les résultats plus que sur la procédure et qui va jusqu'à mettre en place ce que vous avez appelé la grande opération, la retouche centralisée, comme juste un petit détail technique, si je puis dire, évidemment, pose la question de savoir quand les démocraties sont devenues pluralistes et délibératives. Pour nous, il y a l'évidence que les démocraties sont pluralistes et délibératives. Ça n'était pas le cas pendant la Révolution française. Ça n'était pas le cas pendant la Révolution française, je l'ai souvent dit, pour une raison d'abord très simple, c'est que toutes les élections révolutionnaires sont des élections où il n'y a pas de candidat. Aujourd'hui, pour nous, l'idée électorale est liée que l'on choisit entre des candidats. Pendant la Révolution française, il n'y a pas de candidat aux élections. Et donc, les gens mettent des noms sur des bulletins sans qu'il y ait de candidat proclamé. Alors, bien sûr, en coulisses, des gens font savoir ou sont plus connus que d'autres. Et donc, il y a des personnes qui sont des candidats putatifs. Mais il n'y a aucune liste officielle de candidats. Et il est interdit de faire circuler par écrit des noms de candidats. Avec une conséquence technique, c'est que quand il n'y a pendant la Révolution française, on vote dans des assemblées primaires. Les assemblées primaires, parfois dans des régions rurales, peuvent descendre jusqu'à 400 personnes, mais dans les villes, c'est de 1000 personnes, les assemblées primaires. Eh bien, cela veut dire que lorsque l'on vote sans qu'il y ait de candidats, ben, le vote dure très longtemps. Donc, il dure une ou deux journées. Et tous les historiens de la Révolution savent bien, depuis les travaux pionniers en la matière qui ont été publiés il y a une vingtaine d'années de Patrice Guénifet, que pour les électeurs de second degré, le fait de voter pour de nombreuses fonctions, parce qu'on votait pour beaucoup de fonctions sous la Révolution, sans qu'il y ait de candidats, ben, faisait que les électeurs de second degré votaient 180 jours par an pendant la Révolution française. Les opérations électorales étaient une activité à mi-temps à cause de cela. Mais en même temps, le caractère pluraliste n'existait pas, justement, puisqu'il n'y avait pas de candidats. Et de la même façon, le caractère délibératif n'existait pas. Il n'y avait pas, dans les assemblées primaires, de droit à l'explication de vote. Et parmi les clubs les plus, je dirais, les clubs les plus démocratiques, comme les Cordeliers, eh bien, toutes les propositions des Cordeliers, qui étaient très favorables à des formes, justement, de référendum, à des formes d'expression directe, ont toujours lié leur vision de la démocratie directe au fait qu'on assemblait le peuple et qu'il ne parle jamais entre lui. C'est-à-dire que c'était lié à une expression. Il formulait des idées de réunions qui étaient en rond et non pas dans lesquelles on ne parlait pas. Et ils insistaient sur le fait que personne ne devait parler. On devait simplement dire oui ou non. Donc là, on était encore dans une tradition totalement anti-pluraliste. Tradition anti-pluraliste qu'on a bien vu en France aussi au moment où on a discuté de l'organisation de la salle de la Convention. Comment, à quoi devait ressembler un Parlement ? Le grand modèle qui existe à l'époque, c'était le modèle britannique. Et le modèle britannique de la Chambre des communes, c'est qu'il y a l'opposition qui fait face à la majorité. Mais ça, c'était explicitement refusé en France en disant justement ce Parlement britannique, il est fondé sur l'expression de la divergence et non pas sur l'expression de l'unanimité. Et pour qu'il y ait l'unanimité, il faut que tout le monde puisse regarder la tribune sans croiser le regard des autres. Donc le danger, c'était que des regards se croisent. Parce que quand des regards se croisent, il y a des rapports de force qui s'instaurent. Il y a des intimidations qui peuvent avoir lieu. Alors que si on a l'hémicycle tel qu'il était pensé à l'époque, eh bien, disait-on, c'est avec le cœur pur que les députés pourront voter. Donc là, on a bien tout un ensemble de traditions antipluralistes et antidélibératives qui ont été fondatrices dans l'histoire de la démocratie. L'histoire de la démocratie a commencé à se lier à des principes antidélibératifs et antipluralistes, la Grande-Bretagne mise à part. Et là, vous avez eu raison de citer les tableaux de Hogarth. C'est les quatre célèbres tableaux que l'on retrouve au Johnson Museum à Londres et qui sont des tableaux où, au contraire, on montre les élections comme des beuveries, des achats de candidats, où on voit des gens qui donnent de l'argent à des électeurs. C'est les élections festives, corrompues, montrant la division et le désordre, évidemment, tout à fait. À l'inverse, on peut aller sur le site du musée Johnson pour voir ces quatre tableaux très, très, très amusants. Alors, ma question sera la suivante. Si on a, dans l'histoire de la démocratie, on a commencé avec l'antipluralisme, avec l'antidélibératif, en France, il est très fréquent, en 1848, évidemment, la première élection suffrage universel, avril 48. Toute l'iconographie ressemble tout à fait à celle que vous nous avez montrée. C'est une iconographie de la fraternité, une iconographie de l'unité, une iconographie où on voit les gens s'embrasser. Aussi, cette élection en France a eu le jour de Pâques. Donc, dans toutes les églises, il y a eu des homélies sur la fraternité retrouvée dans l'élection. Et l'année d'après, c'est 1849, qui est la première élection en France, où il y a une opposition gauche-droite, pour simplifier. mais c'est la première élection pluraliste, donc. Mais cette élection pluraliste, elle va, cette première élection pluraliste, et qui va être très, une division très vive, et dont les contours vont rester jusqu'à peu près à l'élection législative de 1978. Si vous regardez la carte électorale de 1849 et celle de 1978, les rapports gauche-droite sont les mêmes, les régions sont les mêmes, rien n'a changé pendant ces 130 ans. Mais ce qui est frappant, c'est que ces premières élections pluralistes, où, je dirais, des visions de la société se sont opposées, des groupes sociaux se sont opposés, elle a été ensuite considérée comme une sorte de malheur national. Et les républicains eux-mêmes ont considéré que c'était un malheur national. Et les républicains n'ont considéré que les élections compétitives ou pluralistes n'étaient explicables qu'à cause du fait que le régime républicain n'était pas encore sérieusement installé. Mais que le jour où le régime républicain serait véritablement installé, alors à ce moment-là, il n'y aurait plus besoin de pluralisme, il n'y aurait plus besoin de délibération. Ce sera à nouveau l'unité nationale. Et en fait, le constat que le monde républicain, même triomphant, ne serait pas un monde de l'unanimité, se produit simplement à la fin des années 1880. Et c'est un célèbre discours de Jules Ferry qui le signe en disant « Il faut accepter que sur la très longue durée, les républicains eux-mêmes, les républicains dominant le pays, les républicains eux-mêmes puissent devenir... puissent rester séparés. Donc, toute la pensée de la démocratie n'a pas été une pensée du pluralisme, n'a pas été une pensée de la délibération. Le pluralisme était considéré comme le fait d'un droit, la résultante d'un droit individuel, mais pas une forme, une réalité sociale normale. Alors, la question que j'aimerais vous poser, et moi je vous dirai comment on peut analyser ça en France, quand est-ce que vous pensez qu'on est passé en Italie, et dans quelles circonstances? Là, vous avez terminé sur des considérations de la période fasciste qui montraient au contraire que le fascisme, comme en Allemagne, c'était, on a revivifié au maximum l'idée de la démocratie d'acclamation, l'idée de la démocratie unitaire, voir ce visage du Duce avec... tout cet ensemble de si qui sont dessinés, c'était très frappant. Et quand est-ce que vous voyez à ce moment-là le tournant? Parce qu'en France, on pourrait dire que le tournant, d'un certain point de vue, il n'a jamais été complètement pris. La pluralité, la division sociale est un fait, mais un fait qui reste vécu comme un malheur, et la démocratie n'est pas véritablement délibérative. Alors que la citoyenneté est un droit, bien sûr, mais la citoyenneté, elle est liée à la difficulté de faire un monde commun parce que ce monde est divisé. Donc, moi, je pense qu'une théorie de la démocratie doit être une réflexion sur la division sociale et les conditions pour la surmonter, et non pas une théorie de l'unité factice, souvent, et de l'acclamation, et une manifestation qui fait que la distinction entre la fête et le vote n'existe pas, parce que c'est ce qu'a montré, je trouve, très bien l'ensemble des images que vous nous avez projetées, c'est que entre la fête et le vote il n'y a pas de différence. Et pendant la Révolution française, c'est pour cela qu'on avait mis l'accent sur les fêtes plutôt que le vote. On ne connaît pas, pendant la Révolution française, une seule image d'assemblée électorale. Il n'y a pas une seule image d'assemblée électorale, alors qu'il y a beaucoup d'images des fêtes révolutionnaires. Il y a beaucoup d'images, pas seulement la fête de la Fédération, mais toutes les fêtes révolutionnaires, il y a une iconographie extrêmement importante. Et cette iconographie est une iconographie, justement, de la mise en scène de l'unité. Mais il n'y a pas une seule image du suffrage. Comme il y a l'heure, il n'y en a pas sous la Restauration. Il n'y en a pas sous la monarchie de Juillet. Les premières images que l'on ait du suffrage, de la matérialité du suffrage, de l'urne, sont au début de 1848. Mais même au début de 1848, on met l'accent sur l'unité des foules qui vont voter beaucoup plus que sur l'urne. Et dans l'iconographie, c'est, en fait, c'est seulement sous la Troisième République que l'on voit la centralité de l'urne, où l'urne est le cœur de la démocratie, et non pas, je dirais, le peuple votant. Alors, en Italie, vous l'avez suggéré, mais ce serait très intéressant que l'on conclue sur ce point-là. À quel moment la démocratie est-elle devenue délibérative et pluraliste ? Ou l'est-elle jamais devenue ? Puisque vous nous avez donné une conclusion qui me paraissait assez balancée et au fond un peu ambiguë.
Ok. Oui, je remercie bien pour cette question parce que ça me permet de dire justement que je crois que c'est une situation assez semblable à la situation française que vous avez décrite. C'est-à-dire que moi aussi, je crois qu'en Italie, on n'est jamais arrivé à une formulation précise de la démocratie délibérative. Il y a des passages importants, il y a des tournants, bien sûr, où les élections sont compétitives. Même pendant l'Italie unifiée, l'Italie libérale, l'insidite l'Italie libérale, l'Italie après le Risorgimento, par exemple, l'insidite crise de fin de siècle, il y a là une contraposition très forte entre la droite monarchienne et la gauche libérale, radicale, républicaine. Les élections de 1900, mais ce qui est intéressant, c'est comme en 1949 en France, Ça a été vu comme un malheur, et puis ça a été, et c'est seulement quelque chose, c'est un unicum, c'est quelque chose qui reste là. Puis le passage, parce que puis pendant les premières décennies de 20e siècle, c'est un autre, on revient à cette idée des élections qui sont des élections sur la monarchie, sur les institutions. Et donc le gouvernement, c'est l'État, et donc il faut toujours voter pour l'État, pour la monarchie, pour le gouvernement. Le tournant, et avec le fascisme, cette idée devient formidable, et donc le fascisme utilise beaucoup cette idée. Les élections de 24 sont des élections plébiscitaires sur la figure de Mussolini, alors qu'ils sont encore plus ou moins des élections libres, plus ou moins. Et avec cette loi, avec le ultramajoritaire. Le tournant du référendum de 1946 est très intéressant, mais il est en effet encore ambigu, parce que c'est vrai que l'Italie est partagée entre monarchienne et républicaine, mais ça, c'est vrai seulement au niveau national, parce que, sauf la Sium, dans la plupart des régions, il y a on est monarchique ou on est républicaine. La façon de voter, la façon de s'exprimer reste fortement plébiscitaire. Et donc, c'est le sud de l'Italie, c'est plébiscitaire. À Naples, la monarchie arrive à 80%, alors qu'en Lombardie ou au nord, la République arrive à un très fort score de voix. Là, ça dépend aussi bien sûr de la division que le pays a connue pendant la Deuxième Guerre mondiale et la guerre civile qui a été en Italie, mais c'est aussi une façon de voter. Et de toute façon, l'élection de l'Assemblée constituante qui est à côté du référendum de 12 juin, montre une Italie pluraliste, parce que c'est l'Italie des partis, c'est l'Italie où il y a en effet les élections de 48 en Italie, ce sont des élections très fortement compétitives entre un front démocratique, social-communiste, contre la démocratie chrétienne et ses alliés, et donc là c'est sûrement une élection compétitive. Et d'une certaine façon, ça reste pendant les premières jusqu'aux années 80, 90, cette pluralité des partis. Et mes élections-là ne sont pas compétitives parce que les communistes, qui sont le premier parti de la gauche, ne peuvent pas gouverner. Et donc, ils sont des étranges élections compétitives, mais qui ont toujours un seul possible vainqueur, la démocratie chrétienne et ses alliés, parce que les communistes, qui sont le premier parti d'opposition, ne peuvent pas gouverner. Et ce que me frappe, c'est que après la chute, d'une certaine façon, de cette république des partis, à la fin des années 90, on est retombé en Italie sur beaucoup d'un imaginaire plébiscitaire. Et c'est pour ça que je disais la torsion plébiscitaire de l'institut du référendum. Le référendum en Italie est un référendum abrogatif qui est dans la Constitution de 1948. Donc, le Parlement fait une loi, les citoyennes peuvent recueillir les signatures pour porter à référendum une loi. Alors que dans les années 70, ces référendums ont utilisé pour trancher en effet sur des questions importantes, l'avortement, le divorce. À partir des années 80 et 90, le référendum est transformé en une votation plébiscitaire. Par exemple, en 1993, le référendum sur le changement du système électoral, qui devient majoritaire, il était proportionnel, est un grand plébiscite. C'est-à-dire qu'on arrive à 80% pour abroger la loi électorale proportionnelle, et tous les autres référendums depuis cette référendum, ce sont seulement des plébiscites. Et les ennemis, les adversaires qui ne veulent pas perdre, ils ne se battent pas pour maintenir la loi, mais ils cherchent à ne pas faire aller les gens et les citoyens à voter. C'est ça, l'enjeu est devenu la participation électorale, parce que pour être légal, le référendum doit on doit arriver à 50% de la participation. Et donc, maintenant, le référendum a cette... si, tous ceux qui vont voter, ils votent en faveur. Les adversaires peuvent seulement essayer de faire échouer le référendum. Et donc, moi, je crois en effet qu'on est en ce basculement, on est en cette ambiguïté, et paradoxalement, depuis les années 90, on est retombé en arrière plutôt que...
Mais là, vous introduisez une autre réflexion, puisque en parlant des référendums d'unification, des plébiscites d'unification, vous disiez que ce n'était pas simplement le résultat qui était important, mais la participation. Ça nous ouvre évidemment des sentiers de réflexion pour le monde contemporain. Merci beaucoup.
Merci à vous, vraiment.